arrêtez de grignoter.
Sud Radio, il est 18h. Parlons vrai.
Bonsoir à tous. Vive émotion cet après-midi à Châteauroux où une marche blanche était organisée en mémoire de Matisse, cet adolescent de 15 ans tué à coups de couteau lors d'une bagarre samedi dernier. Près de 8000 personnes ont participé. Les commerçants de la ville ont baissé leurs rideaux en signe de soutien et plusieurs enseignantes ont rendu hommage à leur ancien élève. Le suspect, âgé de 15 ans, lui, est en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. À Toulouse, les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte après la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés graves la nuit dernière. L'homme qui est décédé avait 32 ans et il était sorti de prison en février, précise le procureur. Selon le quotidien régional La Dépêche du Midi, les victimes se trouvaient dans un véhicule quand elles ont été prises pour cible. La justice administrative autorise finalement une conférence avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine. La direction de l'établissement avait initialement interdit l'événement pour risque de troubles à l'ordre public et de remettre en cause la neutralité de l'université. Mais le tribunal administratif de Paris y a vu une atteinte à la liberté de réunion. Une délégation du Hamas en Égypte pour des négociations. Sur la table, une trêve de 40 jours à Gaza et la libération d'otages israéliens détenus par le mouvement palestinien. Nous nous rendons au Caire dans un esprit positif, avait déclaré hier soir le Hamas. Le foot, 32e journée de Ligue 1. Le Havre s'impose à domicile face à Strasbourg 3-1. Metz reçoit Rennes à 19h et à 21h, Nantes joue sur la pelouse de Brest. En Ligue 2, la joie des Auxerrois après leur victoire 2-0 face au Paris FC. Les Bourguignons sont quasiment assurés de revenir en Ligue 1. Une seule condition, que Saint-Etienne perde à Guingamp ce soir. Et puis la ville de Marseille dévoile les noms des porteurs et porteuses de la flamme olympique lors du relais de flambeaux dans la cité phocéenne jeudi prochain. Des humoristes comme Nicole Ferroni, mais aussi des sportifs et des artistes. Le doyen sera Albert Corrieri, un ancien déporté âgé de 101 ans. Et Colette Cataldo, supportrice emblématique de l'OM, participera elle aussi à l'âge de 83 ans. Très bonne soirée à tous.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est le retour du best-of des vraies voix.
Et tout de suite, la suite.
Les vraies voix Sud Radio.
Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite.
Là, tout le monde est tétanisé. L'impression, c'est ça, c'est que le gouvernement est prêt à lâcher sur énormément de choses.
On peut faire des grèves perlées pendant des mois, ce qui a été le cas pendant la grève des retraites, ça ne suffit plus. Et donc, les gens établissent des rapports de force.
Tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace avant les Jeux Olympiques de risque de grève.
Donc, c'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications.
Attendez, remettons les choses dans le contexte.
Est-ce cela ou pas?
Et pour les syndicats, les Jeux Olympiques 2024 sont donc un puissant levier de négociation salariale, rappelant la forte pression syndicale à l'occasion de la Coupe du Monde en 98 pour éviter tout mouvement social. L'État, la SNCF ou l'aérien ont déjà passé des accords sur l'impact du recul de l'âge légal de départ à la retraite et puis les revalorisations salariales et ainsi que les primes.
Alors parlons vrai, est-ce que vous craignez une paralysie du pays au moment des Jeux Olympiques? Est-ce que le gouvernement doit être intraitable et ne rien lâcher, ou au contraire lâcher du lest? Est-ce que finalement, une fois de plus, ce ne sont pas les salariés du public qui vont bénéficier de ces grèves, plutôt que les salariés du privé qui n'ont pas le pouvoir de bloquer le pays? Et à cette question, les syndicats ont-ils raison de profiter des Jeux Olympiques comme levier de négociation pour obtenir des avantages? Vous dites oui à 51%, vous voulez réagir, le 0826 300 300.
Et Axel, personne est avec nous, secrétaire général de la CGT, cheminot de Trappes et de Rambouillet. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Philippe Bilger, alors oui, forcément, est-ce que, avec la question de Sud Radio, finalement, que je n'ai plus en tête, est-ce que les syndicats ont raison de profiter justement de ces Jeux Olympiques?
Alors, si vous le permettez, une seconde sur une digression.
Ouais.
Axel est une personnalité dont on peut discuter la générosité sociale, mais les débats sont passionnants.
Oui.
Mais je peux témoigner, et j'espère ne pas l'offenser, que lorsqu'on a besoin d'un petit service sur une information anodine, il est là, et j'ai beaucoup apprécié la gentillesse qu'il a eue. Maintenant, parlons du sujet important.
Élégance et gentillesse.
Élégance.
Merci.
Absolument.
Le train pour Pau est donc prêt.
Et il a accepté de rendre un service à quelqu'un qui ne pensait pas comme lui, ce qui est un exemple parfaitement démocratique et humain. Mais plus sérieusement...
Maintenant, on va pouvoir l'attaquer.
J'ai noté
comme ça.
J'ai noté ça, la réponse qu'il vous a faite rapidement, oui. Cécile. Alors, je n'étonnerai personne en disant que même si les revendications ne sont pas satisfaites, il me semble que pour deux raisons, il faudrait accepter de ne pas porter atteinte, je dirais, au succès des JO. D'abord, pardon, c'est très pompeux, il y va de l'honneur de la France et elle n'a pas tant de satisfaction à nous offrir que on puisse de gaieté de cœur ruiner en totale connaissance de cause des Jeux Olympiques. Deuxième et dernier élément, il faut d'autant plus songer à l'honneur de la France que à l'heure actuelle, une majorité de Français, enfin j'y suis, ne sont pas structurellement enthousiasmés par ce qui se prépare. Donc je vois là deux raisons, à la fois nationales et opportunistes, peut-être, de mettre entre parenthèses des revendications sociales qui pourraient n'être pas satisfaites dans les délais.
Olivier Dartigol.
On souhaite tous la réussite des Jeux. Et les agents des services publics, quel que soit le domaine d'intervention, ils souhaitent ce succès. La question qu'on a, c'est que beaucoup d'entre eux vont être mis à contribution d'une manière très importante pour la réussite de ces Jeux. Ils ne pourront pas prendre de vacances, et ils seront avec une charge de travail augmentée, avec des rémunérations. Le point d'indice a été gelé pendant 10 ans. Et ce qui s'est fait sur la toute dernière période ne rattrape en rien la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation galopante. Les primes, c'est une chose, mais ça ne remplacera jamais l'augmentation d'un salaire. Ce que je souhaite simplement qu'on puisse regarder attentivement, c'est est-ce que ces revendications sont légitimes, raisonnables? Est-ce qu'elle relève non pas d'une générosité avant les JO, mais d'une revendication salariale et sociale qui mérite d'être considérée? Parce que ce que je regrette, c'est que les directions d'entreprises publiques, et j'en termine là-dessus, avaient le temps de négocier. Donc ce mépris qui existe en disant « mais passez votre chemin, il n'y a rien à voir », pour après « ah, les Jeux approchent, donc il faut peut-être reconsidérer tout ça », ça n'est pas de la responsabilité des organisations syndicales qui ont mis sur le tapis, parfois depuis plus d'un an, un certain nombre de questions.
Bernard Cohen-Haddad.
Moi, j'ai pas quand même l'impression qu'on est dans le mépris du dialogue social aujourd'hui. Dans les entreprises, c'est plutôt la prise en otage des usagers. Et cette épée de Damoclès qui pèse sur les usagers des services publics, aujourd'hui, est inadmissible, comme l'a dit Philippe Bilger, à l'horizon des moins de 100 jours, des JOP. Parce que ceux qui font grève aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ce soit ceux qui sont les plus à plaindre, comme les contrôleurs aériens, comme à la SNCF, un certain nombre de conducteurs. Preuve en est, la négociation sur la retraite qui va au rebours de la loi retraite ces derniers jours, c'est-à-dire de la semaine dernière, qui a été signée par l'ensemble des syndicats. Ça, c'est inadmissible.
Sur proposition de la direction.
Ouais. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que c'est en dehors du droit commun.
Ouais. Ah. Axel Personne.
Je rassure tous les auditeurs, nous n'avons pas prévu de prendre en otage les voyageurs ou les exécutés, puisqu'on nous dit qu'on va prendre en otage. Mais en revanche, justement, parce que c'est pas tout à fait la même chose. La dernière fois que les cheminots ont participé à des réelles prises d'otages, c'était du moment de la résistance. Donc ça remonte. Hein. Mais nous n'avons pas prévu, en tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas prévu aujourd'hui de recourir à ce mode d'action. En revanche, oui, de manière très claire et assumée. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les salariés des entreprises publiques, hein, parce que la réussite des JO, on va revenir aux fondamentaux, la réussite des JO dépendra de l'investissement des salariés, qu'ils soient dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports, oui, dans le ramassage des décès, qu'ils soient publics ou privés. Et on reviendra aux fondamentaux face aux puissants de ce monde. Si vous voulez que cet événement ait lieu, bah oui, ce seront les travailleuses et les travailleurs qui vont le faire, qui vont le rendre possible. Donc, s'ils ne viennent pas à satisfaire les revendications légitimes de ceux qui vont faire et assurer la réussite de ces Jeux, bah bien évidemment, nous irons en conflit et nous défendrons les intérêts jusqu'au bout de nos possibilités, y compris par la grève. Et Philippe, un syndicat qui dirait le contraire serait un syndicat bien plus efficace dans la défense des intérêts de ceux qu'ils sont censés représenter.
Philippe Bilger, mais dans le micro.
Axel, la question dépasse peut-être un petit peu notre débat, mais est-ce que ça veut dire que pour un syndicaliste, le national est toujours relégué par rapport au syndical ?
Bah, disons que le syndical, c'est les organisations syndicales ont vocation à représenter un ensemble de salariés, que ce soit au niveau national, régional, local. Et aujourd'hui, un événement à dimension mondiale, qui va se décliner au niveau de la région Île-de-France va être assurée par des salariés que nous sommes censés représenter. Donc aujourd'hui, ça vient d'ailleurs même plus que des syndicats, ça vient dans les discussions, dans les lieux de travail. C'est les collègues, c'est les camarades de travail qui aujourd'hui disent, compte tenu des contraintes qu'on va nous imposer, c'est-à-dire renoncer aux vacances pendant les étés, ou aussi assurer une charge de travail démentielle par rapport à ce, par rapport à la même période pendant cet été-là. Par exemple, un exemple très concret sur le RERC, par exemple dans l'intramuros, le plan de transport qui est demandé, qu'on doit assurer, ça va relever un peu de la prouesse, hein, y compris on se demande si techniquement on a l'effectif pour le faire, puisqu'ils veulent faire passer l'équivalent d'une heure de pointe toute la journée sur un tronçon qui habituellement est fermé pendant l'été pour des raisons de travaux. Donc compte tenu de ces contraintes-là, oui, il est clair que les termes dans lesquels ils se posent, ce sera, bah oui, on veut bien le faire, mais il va falloir quand même mettre à la fois des effectifs sur la table et en effet des rémunérations à la hauteur de ce que vous nous demandez. Alors, et ça, on s'en excusera pas, oui, on ira se battre pour l'obtenir.
Le prix est très intéressant parce que le plus souvent, ces agents sont les experts du quotidien, du service rendu aux usagers. Quand des cheminots ont dénoncé l'externalisation de certains métiers qui avant étaient portés par l'entreprise nationale et publique, en disant attention, on va vers des difficultés, y compris sur la sécurisation de certaines lignes, on a vu que ça pouvait amener à des drames. Donc quand des agents disent attention, dans les conditions, le plan qu'on nous présente, ça ne peut pas passer, les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe bien, ils sont là, dans ce cas-là, ils prennent le statut de presque de lanceur d'alerte.
Un mot, Axel Persson, et on part au 0826 300 300. Vous êtes d'accord avec Olivier d'Artigol ? Vous êtes des lanceurs d'alerte à la CGT ?
Oui, pas que la CGT, surtout les cheminots sur le terrain. Mais là, je parle des cheminots, c'est normal, puisque je suis cheminot. Mais en fait, c'est dans un certain nombre d'autres services pareils. Dans le ramassage des ordures, où habituellement, par exemple, la ville de Paris se vide, a plutôt tendance à se vider d'une partie de ses habitants, qui du moins ceux qui ont les moyens d'aller en vacances. Là, ça va être un peu l'inverse, puisque la population va augmenter. Ils avaient donné des statistiques à peu près doublées, ou je sais plus quoi. J'ai oublié le chiffre, pour être tout à fait honnête.
10 millions,
donc justement, assurer cette charge de travail-là dans ces conditions-là pendant l'été, forcément, techniquement, il va falloir mettre des moyens humains, techniques et évidemment financiers, puisque la charge de travail va être démentielle par rapport à ce qu'ils sont... qu'ils vont devoir habituellement assurer pendant l'été.
Donc c'est
forcément,
il va falloir.
C'est 10 millions de visiteurs, les JO, je crois.
Oui, je crois, oui.
Moi, j'avais oublié le chiffre exactement.
Ouais, mais ça ne doit pas être très loin.
Allez, passer à la caisse, quoi, en gros. Ouais. Y compris pour les salariés.
Direction Strasbourg, où il n'y aura pas d'épreuve des JO. Bonsoir, Sébastien, notre vraie voix du jour. Alors, est-ce que vous pensez que les syndicats ont raison de profiter du moment pour faire un bras de fer, comme ils l'avaient fait pour le Mondial 98, par exemple, hein? Sébastien. On a un problème avec Sébastien. Bernard Cohen-Haddad.
Oui, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit. Vous en doutez bien. C'est les JOP, d'accord. Ça va être difficile pour tout le monde, d'accord. Pour les salariés du public, du privé. Mais on va quand même respecter le droit du travail. Faut pas l'oublier, mon cher Olivier, hein. Le droit du travail, il y a des heures supplémentaires. Il y a des congés. Tout ça, ça va être fait. Il y aura pas d'exception de nos droits. Je vis au quotidien. En revanche, moi, ce qui m'inquiète quand même dans cette période, c'est que, bien entendu, améliorer la situation des salariés de la SNCF, de la RATP, mais j'aimerais bien qu'on améliore aussi la qualité du service, parce que là, on n'est pas en période des JOP, et c'est pas merveilleux tous les jours, déjà.
Les vraies voix Sud Radio.
Restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio ailleurs, en DAB+.
Sud Radio.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€ le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au Quintet Plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là, t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore. Ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. PMU.
Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou, vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Ah, c'était trop cool ce premier date avec toi, Chloé.
Mais ça t'ennuie pas de payer le resto ?
Hein, parce que je dois réparer ma voiture. Gros frais, hein ?
Ah, Paul n'est pas très crédible. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est le retour des best-of des vraies voix. On s'en remet à une petite couche ?
On s'en met même une grosse couche.
Les vraies voix Sud Radio.
Vous savez, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à un projet d'entreprise, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à la valeur travail, il faut que les salariés puissent s'y retrouver.
Il y a déjà eu 500 entreprises qui sont passées à 4 jours, 32 heures, sans baisser les salaires.
En tant que patron, on doit s'adapter. Quand le Covid est arrivé, on a renvoyé tout le monde chez soi pour travailler à domicile. Il y a 5 ans, vous m'auriez dit, est-ce qu'on peut travailler à domicile ? Je vous aurais dit, non. Ça me semble bizarre. Oui. Maintenant, ça semble complètement normal.
Les salaires doivent progresser dans notre pays, surtout quand les résultats des entreprises sont au rendez-vous. C'est une question de justice.
Et plusieurs secteurs et entreprises annoncent expérimenter la semaine des 4 jours, travailler moins pour travailler mieux, disent certains. D'autres préfèrent faire un petit peu moins d'heures sur une journée. Entre mutations depuis 2020 sur le télétravail qui s'est imposé, même si certaines entreprises cherchent désormais à limiter cette possibilité, puisqu'ils pensent que ça peut nuire à la cohésion en interne.
Alors parlons vrai, est-ce que le travail, c'est la santé, mais est-ce que ça peut être aussi le bonheur ? Est-ce que la principale valeur que vous attendez de votre travail, c'est la rémunération. Est-ce que depuis 20-30 ans que vous travaillez, venez témoigner au 0826-300-300, les conditions de travail se sont améliorées ou dégradées ? Et à cette question, faut-il repenser le travail en France en ce jour de fête du travail ? Vous dites oui à 86%. On attend vos appels au 0826-300-300.
Et notre invité pour en parler, Jean-François Amadieu, est avec nous, sociologue et professeur de l'université Paris 1. Merci d'être avec nous. Cette journée de 4 jours, Philippe Bilger, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle en fait ?
Alors, une approche conservatrice dont sans doute j'ai abusé dans ma vie, à un moment donné me faisait proférer cette banalité que beaucoup de gens de mon âge ont parfois, les jeunes n'aiment plus le travail, ne veulent plus travailler, par conséquent, ça n'est plus un sens dans leur vie. Et puis, il est évident que les événements que nous avons subis avec notamment la Covid, et puis je dirais le besoin de réfléchir au-delà du Covid sur notre condition, m'ont permis d'être un peu plus lucide et d'accepter l'idée que des nouvelles générations ont besoin d'un nouveau rapport entre le travail et la vie et le bonheur. Non pas qu'ils récusent le travail, je crois, à part quelques-uns, hein, dont quelques spécimens se trouvent du côté de Sciences Po et de la Sorbonne, mais en réalité, ils veulent vivre autrement le travail dans une forme de sagesse et de philosophie. Et je trouve que c'est bien et j'attends avec impatience l'avis de Jean-François Amadieu s'il est parvenu à garder son sérieux.
On fait le tour de table déjà, Olivier d'Artigolle.
Rappelez-vous, pendant le débat sur la réforme des retraites, on avait beaucoup parlé du travail, de sa nature, de sa soutenabilité, de son sens. Et malheureusement, le soufflet est retombé. Emmanuel Macron avait pris le pays à témoin en disant « on ne va pas lâcher, on va travailler cette question-là ». Ça n'est toujours pas le cas, première chose. Deuxième chose, les personnes qui disent « il n'y a pas de problème de salaire » sont souvent des personnes qui gagnent bien ou très bien leur vie. Reste qu'aujourd'hui, ce qui a été des années de modération salariale et ce qui est la smicardisation d'une part de plus en plus importante du salariat français, ces trappes à bas salaire par des mécanismes que je ne développe pas ici qui existent, sont un réel problème. Dernier point, il y a beaucoup de souffrance au travail. Dans le public comme dans le privé, moi j'ai beaucoup, je reçois beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux avec un problème qui est pointé en effet sur le management. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on a un gros problème dans notre pays aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent en souffrance au travail. Parce que...
Pourquoi vous me regardez ?
Vous êtes totalement épanoui au travail, Cécile. Parce que la manière dont ça se passe dans leur entreprise ou leur administration dysfonctionne et c'est un vrai problème.
Bernard Cohen-Haddad.
Est-ce qu'il y a une nouvelle relation au travail ? Bien entendu. Depuis la Covid-19, on ne pense plus le travail comme avant. Ça a été bien dit par Philippe, par Olivier. Il y a eu le télétravail. Cécile évoquait la semaine en 4 jours. Ça veut dire qu'on fait...
C'est pas 2, 4 jours.
C'est pour ça que je disais en 4 jours. C'est-à-dire qu'on fait en 4 jours...
Ce qu'on fait en 5.
Ce qu'on fait en 5, c'est-à-dire 1h50 de plus par jour. Et puis, dans l'année, 47 jours de repos en plus. Et donc, ça crée des avantages et des inconvénients, notamment du stress au travail, un problème de cohésion des équipes. Moi, ce qui me gêne, c'est... la distanciation de certains vis-à-vis du travail et du travail en entreprise. Madame Rousseau, le travail est une valeur de droite. Nathalie Arthaud, le travail est une prison. Je ne pense pas du tout dans ce périmètre-là, moi. Le travail peut être un progrès humain, social, à la fois une œuvre individuelle et une œuvre collective.
D'émancipation. Professeur, est-ce qu'il faut repenser totalement ou trouver peut-être une façon de gérer le travail à la carte ?
Mais on a déjà travaillé à la carte. Déjà, on a beaucoup évolué dans les aménagements du temps de travail, les flexibilités. Bien sûr, il y a eu ensuite le télétravail. Et vous avez raison de rappeler que pendant longtemps, les employeurs et les DRH n'en voulaient pas. Et finalement, les salariés, évidemment, ont été très convaincus dès qu'ils ont pu l'expérimenter. Mais je voudrais dire aussi que la semaine de 4 jours, il y a un certain nombre de salariés qui y trouvent leur avantage. C'est vrai que ça c'est pas possible forcément partout, mais là aussi, ça fait partie des souplesses qu'on a introduites. On n'est plus à l'époque où il y avait un seul régime de travail qui était prévu dans le Code du travail. Mais évidemment, les choses ont changé. Voilà. Maintenant, vous avez eu raison de rappeler dans le votre tour de table que alors c'est intéressant. D'une part, à l'occasion d'un 1er mai, il faut quand même se souvenir que l'histoire des 1er mai, à la fois en France et aussi aux États-Unis, c'est la question de la journée de travail et des repos aussi. Et donc c'est un point très important que cette durée du travail, l'intensité du travail, et c'est tout à fait naturel que les gens aient cherché, bien sûr, à avoir un travail qui à la fois les fasse pas souffrir, soit rémunérateur et occupe moins de temps. Donc après qu'on ait besoin de changer le management de changer nos organisations du travail, oui, et ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point la France est dans une situation tout à fait atypique au plan international sur les sujets dont on est en train de parler. Il faut quand même le mesurer, je ne parle pas que de l'Europe. Par exemple, Gallup, depuis des années, étudie le degré d'engagement dans les pays.
Alors Gallup, c'est un institut de sondage américain, je le rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas.
Voilà. Donc ils ont une étude qui est vraiment extraordinaire depuis des années sur l'engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens ils vont au travail ayant envie de bosser, en étant reconnus dans leur travail, etc. etc. La France est l'avant-dernier rang sur une quarantaine de pays, il y a que l'Italie qui fait un peu moins bien, on est à 6% de gens engagés, c'est absolument dérisoire, beaucoup de gens sont désengagés. Alors, c'est une illustration. Ensuite, dans toutes les études de comparaison sur les conditions de travail, vous mentionniez tout à l'heure la souffrance au travail, les conditions de travail en général, et la reconnaissance au travail, l'indice de qualité du management, par exemple, dans des comparaisons internationales, on est dans une situation catastrophique. Voilà, je veux pas, c'est vrai que ça fait un peu French bashing de dire ça. Et honnêtement, on le sait, on a là besoin de progresser sur ce terrain, même si les Français, on sait bien, ils sont toujours critiques. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a un vrai problème. Et il se trouve que dans la période, comme les jeunes générations, les plus jeunes et une partie d'entre eux, il faut bien dire une partie, notamment des plus jeunes, génération Z, comme on dit. Eh bien, sont en train de développer, ont développé des comportements, des attitudes très problématiques dans les écoles, c'est l'indiscipline, dans nos universités, bien entendu, au travail aussi, on le voit maintenant, c'est compliqué. Voilà. Donc, vous avez d'un côté un management, effectivement, qui doit progresser, et puis, des jeunes générations, là, qui se trouvent, du coup, pour une part d'entre elles, compliquées à gérer.
Philippe Bigère veut réagir.
Monsieur le professeur, quels que soient les nouveaux modes de travail et l'organisation des vies professionnelles par rapport aux existences familiales, est-ce que vous croyez qu'on parviendra toujours à réaliser une synthèse, peut-être difficile, entre le besoin de liberté et en même temps l'exigence d'autorité?
Oui, alors vous abordez le sujet qui est important, et pour ça je parlais des effets de génération. Tout le monde sait, mais c'est assez étudié, c'est qu'effectivement, en fonction de votre âge et deuxièmement de votre génération, vous n'avez pas le même rapport à l'autorité, ce qui est important à la fois à l'école et dans une entreprise, évidemment, et puis à ce qui va vous contraindre. Il faut ajouter sur la liberté, pour aller dans votre sens, que nous avons un problème très, très particulièrement en France et dans un certain nombre de pays, c'est le fait que les gens et les jeunes en particulier deviennent de plus en plus individualistes avec une revendication de liberté très importante. Donc pour eux, les contraintes, les règles elles-mêmes en général deviennent compliquées. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a un problème nouveau. Qui, une fois de plus, hein, parce que ça ne concerne pas toutes les générations en l'occurrence, et donc d'acceptation d'un certain nombre de ce qui va restreindre votre liberté, sachant que la France est extrême, on le voit une fois de plus, pardon de dire ça, mais dans les comparaisons internationales, les analyses qui sont faites, par exemple sur cette question de la liberté, c'est vraiment la valeur très importante actuellement, plus que jamais dans le cas français. Ouais. Une sorte de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme si finalement ces valeurs-là diffusaient dans l'ensemble de notre société. Ça, c'est un peu plus joyeux.
Les vraies voix Sud Radio.
Le best-of des vraies voix, on se retrouve après une courte pause.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio, la radio du rugby.
Bonjour les amis de Sud Radio, la radio du rugby, c'est Daniel Herrero. Le rugby de France est en pleine effervescence. Les joutes nationales sont très indécises et donc passionnantes. Le stade toulousain, chaque week-end, s'impose comme le fleuron incontestable du territoire national. Justement, demain à 16h au Stadium, le stade toulousain s'attaque à la conquête du grand trophée européen. Demi-finale contre les Anglais des Harlequins. Au Stadium, demi-finale de la Coupe d'Europe, là, les amis, il y a du bon et nous y seront. C'est évidemment sur Sud Radio.
Sud Radio, la radio du rugby.
Cette heure, Sarah profite de ses draps à la redoute intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps. Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit 19,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voire conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La Redoute, vivre le beau.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir ? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence.
Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio ? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup ? Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé.
Mais c'est pas vrai.
Si, si, je vous assure. Et écoutez ça. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo.
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo? Je veux pas le croire.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est le retour du best-of des vraies voix et c'est best de chez best là, Cécile.
Ah oui, c'est plutôt pas mal, écoutez.
Les vraies voix Sud Radio.
C'est vrai que ces dernières années, on a quand même une perte de niveau. Hein.
On a fait baisser le niveau du diplôme, du concours, parce qu'on n'arrive pas à recruter.
Et comme aujourd'hui, ce métier n'intéresse plus, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de plus en plus des arrière-bandes d'amphi qui vont faire ce métier.
C'est quand même assez inquiétant, parce qu'on était, on n'était pas bons en France, on était les meilleurs.
Oui.
Moi, le nombre de gens qui viennent me dire que l'instit de mon fils fait des erreurs dans les calculs au tableau et se sert de la calculette parce qu'il n'arrive même pas à calculer, bah oui.
Et des professeurs de mathématiques qui pointent le faible niveau du CAPES 2024. Hein. On rappelle le certificat de professorat de l'enseignement du second degré d'aptitude. Selon eux, de bons élèves de terminale seraient prêts à le réussir. Les exercices du concours pour devenir prof de maths seraient de niveau lycée, Philippe.
Alors parlons vrai, est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas obligés de baisser le niveau pour pourvoir tous les postes d'enseignants vacants? Avez-vous pu constater des faiblesses chez les enseignants de vos enfants, par exemple? Est-ce que vous avez d'ailleurs constaté une baisse du niveau de vos enfants par rapport à votre génération? Et à cette question, l'abaissement du niveau des concours pour devenir enseignant entraîne-t-il la dégradation du niveau des élèves? Vous dites tout à 95%, vous voulez réagir et ce n'est pas des maths. Le 0826 300 300, ou autre prendra vos appels.
Et Pierre Prioré est avec nous, professeur référent mathématiques pour le syndicat SNES FSU. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, il y a des cancres en maths autour de la table.
On a tous été en échec et maths.
Philippe Bilger, ce niveau du CAPES, est-ce que c'est... forcément, ça fait peur quand même un petit peu.
Mais s'il y avait une faiblesse concernant le savoir en mathématiques, c'était le mien. D'abord, fondamental, j'ai toujours été inapte à comprendre les mathématiques. Oh, ça allait à peu près jusqu'à la seconde, et après, ça a été une catastrophe. Mes enfants, mes petits-enfants, je n'ai jamais pu leur reprocher des incorrections en maths, puisque je n'étais pas capable de les remarquer. Mais plus sérieusement, je ne peux rien dire sur la manière dont les maths sont enseignées aujourd'hui, mais je raisonne peut-être par une comparaison discutable. Je vois, par exemple, en français, des professeurs qui font des fautes d'orthographe. Et peut-être abusivement, j'en tire des conclusions sur les autres matières enseignées. Je me dis que peut-être les maths pâtissent sur un autre ordre, bien sûr, de défaillances dans l'enseignement. Et j'attends avec impatience qu'on me démontre le contraire.
Françoise Degois.
Oui, moi j'attends les explications de notre invité parce que on dit c'est assez vague. Des professeurs, mais quels professeurs, quand, comment, est-ce que... Moi, j'ai toujours vachement de mal avec la généralisation parce que si on écoute les micro-trottoirs, si on écoute les gens qu'on a entendus, tout fout le camp et même les profs de littérature...
Mais c'était mieux avant.
Oui, le c'était mieux avantisme que je ne peux plus supporter et les profs de français qui diraient si j'aurais su, j'aurais pas venu, tu vois. Moi, je crois pas du tout une minute qu'on soit dans ce truc cataclysmique, mais j'attends absolument les expressions, les explications de notre invité.
Sébastien Ménard.
Moi, j'ai envie de dire, d'un côté, on a souvent des professeurs des enseignants qui se plaignent, mais on a souvent les élèves, les étudiants qu'on mérite, et réciproquement, la société française, elle a aujourd'hui les enseignants et les professeurs qu'elle mérite. dire que la connaissance empirique, académique est en net recul, c'est une vérité toute matière confondue. C'est une vérité toute matière confondue. Ce que dit Philippe Bilger, on a dans nos entourages respectifs des gens qui enseignent, des gens qui font des fautes de syntaxe à l'oral, des gens qui font des fautes de français à l'écrit, et c'est alors c'est pas handicapant, parce qu'on vit avec, finalement, puisqu'on est dans cette culture du texto, dans cette culture finalement du compromis linguistique en permanence. Donc le fait que ça touche les mathématiques, qui est quand même une science qui peut plus peut-être un peu plus compliquée, parce qu'il faut avoir l'esprit mathématique, l'esprit logique. On n'a pas tous le génie de Cédric Villani, malheureusement.
Oui, heureusement,
non mais je le cite. Non mais malheureusement, oui, parce que le type est talentueux.
Oui, mais après, heureusement, parce que sinon il y aurait que des génies. Hein.
Ah, oui, mais c'est pas John Nash, tu vois. Voilà. Le type exceptionnel, mais schizophrène.
J'aurais adoré faire des fractions.
Là où je ne veux pas rester que sur une note pessimiste ou négative,
très bien.
On a aussi, je l'ai souvent dit, des jeunes gens aujourd'hui qui ont une intelligence, je dirais, généraliste. Voilà, qu'ils arrivent à se forger grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, etc., qui est sur des sujets qui les intéressent, nettement supérieurs à la connaissance que nous, on pouvait avoir à leur âge. Voilà. Mais dommage qu'il y ait quand même un déclin de ce qu'on appelle la grande culture, les connaissances classiques.
On va voir en école des hautes études en sciences sociales.
L'avis de Pierre Prioré, professeur référent mathématique pour le syndicat.
Il y a plusieurs éléments. Hein, allez-y. Vous avez dit, le premier, c'est la question des concours. Alors, non, le CAPES de mathématiques n'est pas bradé, je vous rassure. Même si c'est vrai, les questions du premier problème de la première épreuve sont effectivement des questions qui sont en gros du niveau de terminale première année d'université, mais c'est le programme du concours. Et surtout, le nombre de questions qui est posé aux candidats, 25 questions qu'il faut traiter à peu près en une heure, ça veut dire qu'on attend des candidats qui soient extrêmement précis et extrêmement rapides à la fois, ce qui est une manière de tester en réalité la connaissance de nos futurs collègues. Ça, c'est quand même le premier point. Le second point, c'est qu'on peut se trouver que le niveau du CAPES est trop faible. En fait, je précise quand même que la ministre actuelle, Madame Nicole Belloubet, se prépare à abaisser le niveau du concours de 2 ans, hein, puisque le titre requis actuellement pour passer le CAPES, c'est un master, et que à la prochaine session, ce sera la licence, qui est effectivement un problème pour pouvoir disposer d'un vivier d'étudiants et de candidats qui aient eu le temps, durant des années d'études, de se forger une maîtrise disciplinaire suffisante avant d'être confronté à des élèves de collège ou de lycée pour leur enseigner des mathématiques. Ça ne concerne pas que les mathématiques, ça concerne aussi le français. Nous portons l'idée qu'il faut maintenir le concours au niveau du master comme il est actuellement, mais qu'il faut par contre permettre aussi à des étudiants de réussir leurs études. Le vrai problème, c'est la question du vivier de candidats. Nous pensons qu'il faut accompagner les étudiants à travers un dispositif incitatif, y compris au plan financier, pour qu'ils puissent se consacrer à faire de bonnes études disciplinaires, être vraiment des professionnels qui maîtrisent leur discipline. La pédagogie, ça vient après pour nous. C'est indispensable, mais vous ne pouvez pas faire de pédagogie sur du vide, ça n'existe pas. Il faut d'abord maîtriser sa discipline. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut, j'allais dire, presque du CAPES d'aujourd'hui, mais ce qui se dessine, malheureusement, est plus inquiétant du fait qu'on va abaisser de 2 ans le niveau d'exigence.
C'est dingue, ça. Pourquoi toujours?
Parce qu'il n'y a pas assez de candidats.
Choix, mais candidats.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, en réalité, c'est merci de cet éclairage, parce que vous parlez que d'une seule question sur 25. Donc ça me rassure, je trouve ça assez rassérénant. Mais est-ce qu'au fond, tout ça n'est pas un problème, j'ai envie de dire, d'argent? C'est vrai que si on comprend bien pourquoi Nicole Belloubet veut abaisser, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de candidats, parce que honnêtement, les salaires d'éducation nationale, bon, moi j'ai toujours plaidé pour que les policiers et les profs soient augmentés, voilà, c'est quand même ça le sujet fondamentalement, c'est ça, c'est le salaire.
C'est
insupportable d'aller bosser quand vous avez bac plus 5 ou 6 pour 1 800 € net par mois en début de carrière,
c'est pas acceptable.
Vous êtes d'accord là-dessus ou pas?
Ah bah oui, bien sûr, on a toujours porté cette idée-là. Bien sûr que la revalorisation des métiers, c'est un levier puissant pour agir sur le fait qu'on a des candidats pour présenter les concours. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants, alors en mathématiques particulièrement, parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui est formé à bac plus 5 en mathématiques, bah, il trouve des emplois un peu mieux rémunérés que ce que propose l'éducation nationale. Mais il y a un certain nombre de disciplines pour lesquelles ce problème de vivier se pose pour exactement la même raison. Je prends l'économie-gestion, on a plus grande difficulté à recruter des enseignants dans ces disciplines-là, tout simplement parce que le monde de l'entreprise rémunère mieux les compétences des gens formés à bac plus 3 ou bac plus 5. Donc l'idée de Mme Belloubet, c'est de, j'allais dire, quelque part, de préempter sur les viviers étudiants au niveau de la licence. Peut-être que ça peut marcher, mais nous avons quand même une inquiétude sur, effectivement, l'enjeu de la maîtrise disciplinaire chez les candidats, les futurs candidats du CAPES, puisque, par ailleurs, si on regarde l'histoire, dans la plupart des disciplines, les réductions de volume horaire au collège, au lycée et à l'université font qu'aujourd'hui, un étudiant qui est formé à Bac plus 5 n'a pas le niveau de disciplinaire d'un étudiant formé à Bac plus 5 il y a 20 ou 30 ans. Voilà, c'est la réalité, elle est là, mais c'est effectivement une question de moyens, parce qu'il faut financer des études aux étudiants pour qu'ils puissent, en contrepartie d'un engagement, évidemment, à passer les concours et à servir l'État pendant un certain nombre d'années. Nous, on propose 5 ans, enfin, on peut discuter. Et il faut effectivement, d'ailleurs, que les carrières soient attractives en termes de salaire, de conditions de travail et d'évolution au cours de la vie, évidemment.
Au-delà du problème des moyens, est-ce que vous ne croyez pas que la baisse de la maîtrise en maths, comme dans d'autres matières, vient plus globalement d'un délitement de la culture générale à partir de laquelle on pouvait se spécialiser de manière remarquable dans les matières particulières?
La culture générale, je sais pas trop à quoi ça renvoie. C'est quelque chose qui est compliqué de définir ce qu'est la culture générale. Hein. C'est certainement
pas. Il n'y a pas d'épreuve de culture générale au bac.
Gabriel Attal avec son livre qui est raconté. Hein. La culture générale, ça va bien au-delà. C'est pas non plus de savoir répondre aux questions du Monopoly, parce qu'on voit très bien les projets de réforme de programme en collège qui sont en train d'arriver.
Trivial poursuite, c'est mieux.
On va avoir droit à des questions dites de culture générale qui vont constituer des points de passage appris bêtement par cœur par les élèves sans avoir forcément de ce que représente tel ou tel événement.
Bien sûr, vous avez absolument raison.
Ça, c'est quand même très problématique. Les réponses qui sont apportées sont problématiques. Plus, j'allais dire, que la situation actuelle.
Sébastien Ménard. On part au 0,826-300.
Vous parlez du levier puissant qui est celui de la revalorisation des salaires. J'en conviens et je souscris totalement à ce que Françoise vient de nous partager. Mais pas que. Il y a aussi un autre levier puissant qui est celui de la vocation, la revalorisation de la vocation, parce que la transmission du savoir, c'est quelque chose de noble et c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé. En France. Aussi parce qu'effectivement, vous avez
un salaire. Comment tu quantifies? C'est un vrai sujet.
Sans salaire,
Il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il fut une époque pas si lointaine où l'enseignant, le professeur était quelqu'un de respecté, était quelqu'un dont la voix portait dans la société. Et vous aviez des tas de gens qui, quelque part, avant de se poser la question de savoir combien on allait gagner, c'était je vais faire un beau métier. Je vais faire le plus beau métier du monde, je vais partager mon savoir et je vais enseigner.
C'est que tu peux plus d'aller à la réalité
économique. C'est pas la même société. Le prix des loyers,
La vocation enseignante, elle est toujours là.
Comment
la vocation enseignante, elle est toujours là. Nous avons un métier qui est, depuis les réformes qui s'empilent depuis une quinzaine d'années, nous avons un métier qui est empêché. Aujourd'hui, l'enseignant qui souhaite élever les qualifications, qui souhaitent partager avec les élèves ses savoirs, on passe quand même beaucoup de temps à lui mettre des bâtons dans les roues. J'en veux d'ailleurs pour preuve les évolutions là aussi qui se dessinent en matière d'évolution de programme au collège, où on va avoir probablement des instructions extrêmement fermes sur la manière d'enseigner, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer. Ce qui fait aussi le sel de ce métier-là, c'est la capacité à prendre les élèves là où ils sont pour les amener plus loin et plus haut. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait en tant qu'enseignant la possibilité d'avoir des marges de manœuvre. Ce que propose, par exemple, les mathématiques Madame Belloubet et Gabriel Attal, c'est la méthode de Singapour. C'est-à-dire c'est une méthode complètement standardisée où tout le monde fait exactement la même chose au même moment dans toutes les classes de France et de Navarre. Ça ne fonctionnera pas. Et ça, si on veut faire de ce métier un repoussoir, il faut aller dans cette voie-là.
Direction le 0826-300-300. On commence avec notre vraie voix du jour, Sandrine Déviant. On vous écoute, Sandrine.
Oui, bonsoir. Oui, moi j'ai enseigné les mathématiques sans avoir le CAPES. Mais j'y suis allée parce que c'était un moment où on cherchait des profs partout, on n'en trouvait pas. Et c'est bien dommage parce que c'est un super boulot. Alors maintenant, c'est un super boulot sous certaines conditions. C'est vrai que les conditions de travail sont pas forcément simples. Il faut vraiment revoir ça. Et puis donner des outils aux profs. Et puis surtout, je pense qu'il faut adapter l'enseignement au niveau de chacun.
Les vraies voix Sud Radio.
On fait une pause, on revient dans un instant, ne bougez pas.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Les résultats de l'école de 40 ans de politique égalitaire, et ben de pédagogie bienveillante, c'est plus d'inégalités, moins de connaissances, moins d'exigences et plus de violence. C'est la génération j'ai le droit, je viens comme je suis. Ben, le résultat, vous le connaissez. Quand j'étais gosse, le privé c'était pour les nuls. Aujourd'hui, c'est pour les meilleurs. Les Français sont plutôt placides, mais leur soumission n'ira sans doute pas jusqu'à accepter de sacrifier leurs enfants.
Sud Radio, parlons vrai.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé.
Mais c'est pas vrai.
Si, si, je vous assure. Et écoutez ça. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo.
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo? Je veux pas le croire.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer.
97.9.
Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir. Achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Allô, Mel?
Oui?
Faut que je te raconte. Je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non!
Mais si! Et c'est à partir de 2 euros le t-shirt si t'en prends 3.
Mais non!
Mais si! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous!
Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est le retour du best-of des vraies voix. C'est le dernier extrême, mon cher Philippe.
Ah, c'est le dernier extrême et on a fait quand même une belle course de fond là.
Allez, écoutez.
Les vraies voix Sud Radio.
On est l'espace économique qui est à la fois le plus normé et le moins protégé.
Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici.
Tout le système est à revoir, mais il faut quelques propositions concrètes.
Les accords de libre-échange avec le monde entier, qui aujourd'hui tuent à petit feu notre agriculture.
J'appelle ça un monologue, comme d'habitude, comme il nous a fait le coup pour les gilets jaunes.
Si c'est pour faire de la communication, ça sert à rien de faire ces débats.
Le président se met en scène, oublie l'intérêt général et oublie qu'il a en face de lui des gens qui sont en situation de survie.
Et le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière d'agricole, d'agriculture aussi, et le renouvellement des générations en agriculture est en examen à l'Assemblée nationale. Et après l'annonce de Gabriel Attal d'une série de nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs, une réunion s'est donc tenue ce jeudi matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron et les représentants du monde agricole pour tenter de sortir de la crise, Philippe.
Alors parlons vrai, est-ce le rôle du chef de l'État de recevoir les agriculteurs? Est-ce que les différents syndicats agricoles sont unis ou Macron joue-t-il sur une éventuelle désunion? Imaginez-vous un retour des agriculteurs dans les rues et sur les ronds-points? Et à cette question, rencontre Macron-agriculteur, la crise agricole est-elle terminée? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes agriculteur, le 0826 300 300.
Et Jean-François Lamasse est avec nous, administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Et on vous remercie en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette crise des agriculteurs, on n'en sortira jamais.
Alors j'aurais à la limite admis, mais peut-être fais-je une erreur là-dessus, que le président de la République vienne s'occuper comme une sorte de couronnement d'une crise agricole qui aurait trouvé tous ses remèdes. Hein. On pourrait le concevoir qu'il vienne poser son sceau majestueux sur une entreprise, sur une entreprise qui aurait été réglée par d'autres. Mais apparemment, d'après ce que vous dites vous-même, Cécile et Philippe, on est encore en pleine discussion et notre invité a eu l'air de soutenir le même point de vue. Alors je me demande s'il n'y a pas en permanence chez Emmanuel Macron une volonté de s'immiscer dans des discussions rien que pour montrer qu'il est toujours là et qu'en réalité, le Premier ministre aurait tort de croire qu'il a parti libre dans les domaines qui pourtant relèveraient de sa compétence.
C'est vrai que ça le temps pour le ministre de l'Agriculture.
Oui, mais parce que ça a toujours été ça, le ministre de l'Agriculture, il a toujours été la dernière roue du carrosse, même les meilleurs ministres de l'Agriculture en cas de crise. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous ramenez tout au fait qu'on veut toucher à votre pote petit chéri, Gabriel Attal.
Ah non, pas du tout. Non.
C'est normal qu'il reçoive les syndicats parce qu'Emmanuel Macron, il a un seul objectif, c'est le 9 juin. Donc, il fait ce qu'on connaît tous en politique, il promène le chien, c'est-à-dire que il endort tout le monde, mais notre invité sera tout à fait d'accord, il endort tout le monde pour que surtout il n'y ait pas le moindre soubresaut avant les élections de 9 juin. C'est ça. Pas de levée de bouclier, pas de retour d'agriculteurs dans la rue, il a déjà des faits divers tragiques tous les jours qui nourrissent le RN sans même qu'il ait besoin de faire campagne. Donc, c'est ça le sujet. Ça n'a même rien à voir avec ses compétences et laisser sa marque. Il veut simplement arrêter l'hémorragie sur ce front-là.
Sébastien Ménard.
Alors, totalement en désaccord avec Philippe Bilger, à moitié d'accord avec Françoise de Goix. Non, je pense pas que le président de la République souhaite se mettre en scène. Il y a juste une demande, une volonté très forte. On dit toujours que on préfère parler à Dieu qu'à ses saints. C'est exactement ce qui se passe sur tous les sujets. Il suffit de voir sur tous les sujets. Tous les patrons veulent parler à Emmanuel Macron. Je suppose que les agriculteurs préfèrent parler soit
comme
à Gabriel Attal.
À Hollande ou à
évidemment,
Sarkozy.
Évidemment, ça c'est le premier point. Donc c'est la raison pour laquelle je suis pas d'accord du tout avec vous, Philippe. Et il cherche pas nécessairement à briller à la place d'eux. C'est lui le président. Attal ne serait pas là sans le président. Et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, sans Emmanuel Macron n'existerait pas. Voilà. Et c'est pas leur faire des honneurs que de dire cela et de rappeler un certain nombre de vérités qui sont des vérités politiques. Voilà. Deuxième
c'est
point.
C'est dommage, ça démonétise.
Ouais. Non, mais c'est pas le sujet. C'est la réalité de la cinquième République.
Ça n'empêche voilà. que.
Ensuite, sur ce que dit Françoise, oui, il y a effectivement le président de la République a besoin d'occuper. Je dirais la scène politico-médiatique. Et d'ailleurs, ces troupes lui en voudraient de ne pas le faire. Ils ont besoin d'Emmanuel Macron. Voilà. Je dirais que sans Emmanuel Macron, les candidats qui se revendiquent d'Emmanuel Macron ne seraient pas à 16, 17, 18 ou peut-être, souhaitons-leur, 20, 22, 23%. C'est ce qu'ils souhaitent. On a le droit de rêver aussi. Il n'y arriverait pas. Donc, mais attention, qu'est-ce qu'a dit le président Macron à l'issue? Il leur a dit, attention, moi je ne veux pas courir derrière la colère des agriculteurs. Et il est complètement dans le sondage qu'on a fait ce soir chez nos auditeurs. Il dit, attention, la crise n'est pas terminée. Et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour sortir de cette crise.
Jean-François Lanassé, vous êtes administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Dans quel état sont vos collègues et vous-même agriculteurs? Est-ce que la crise n'est pas finie, comme l'a dit Sébastien Ménard?
Et comme l'a dit Macron, surtout.
Oui, comme l'a dit Macron.
C'est lui qui peut la régler, il dit qu'elle n'est pas finie.
Jean-François Lamassé.
Laissez-le parler.
Pardon, cher ami.
Pas grave. La crise n'est pas finie du tout. Au contraire, moi je pense qu'elle va encore accélérer. Il va y avoir une colère qui va encore monter plus fort. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est tous dans les champs. Bon, c'est vrai qu'il a plu un peu ces jours-ci, mais bon, on est tous dans les semis de printemps. Et les traitements des cultures d'hiver. Mais dès que ça sera fini, je pense qu'on va ressortir. Aujourd'hui, M. Macron, il a fait un grand coup de com'. Voilà. Tout le monde dit les beaux, tout le monde est gentil, je vais vous aider, comme à chaque fois. Et une fois de plus, il va nous endormir, il va rien se passer. Lui, ce qu'il veut, c'est que les JO se passent bien et que les élections européennes, voilà. Et les agriculteurs avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus un agriculteur qui le supporte. On a été trahi, mais je ne sais pas si vous imaginez, au salon d'agriculture. Il nous dit qu'il vient pour défendre les agriculteurs, d'accord ? Il n'y a plus de protectionnisme européen. Il signe pour laisser rentrer des céréales d'Ukraine. Il signe pour laisser rentrer des poulets d'Ukraine. Il signe pour laisser rentrer des œufs d'Ukraine. Et derrière tout ça, pour comme s'il n'y avait pas assez, la cerise sur le gâteau, il va signer des contrats de libre-échange avec le Kenya et d'autres pays. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, comment vous voulez qu'on fasse confiance à quelqu'un comme ça? On ne va pas lui faire confiance. Mmh. Alors, pour revenir à votre première question.
Oui.
J'ai eu la chance de côtoyer l'ancien ministre de l'Agriculture de Normandie.
Ouais. Julien de Normandie.
Julien de Normandie. Julien de Normandie, qui était une pointure. Mmh. Qui était une pointure, qui connaissait l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens en France qui veulent gérer l'agriculture, mais qui ne la connaissent pas.
C'est son métier, hein, à la base.
Voilà. Il connaissait l'agriculture et on a eu droit aux problèmes. Je vous garantis que les problèmes, combien de fois on l'a rencontré à Paris, on a expliqué des problèmes qu'on avait, il a trouvé des solutions. Aujourd'hui, Marc Fesneau, il aimerait faire, mais c'est M. Macron qui décide de tout. Donc, il nous dit blanc le mardi, et on apprend le vendredi ou le lundi d'après que finalement, ce qu'il nous a dit, c'est pas possible. Voilà où on en est aujourd'hui.
Ouais, c'est donc, intéressant ce que vous dites.
M. Macron veut tout gérer, et parce qu'il n'y a pas l'agriculture. C'est impossible.
Françoise Deloye veut réagir.
Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment, je trouve que c'est chirurgical ce que vous dites et merci parce que du coup, ça rejoint aussi une partie de ce que disait Philippe Bigère et vous lui donnez raison. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, en plus de la crise et du fait qu'il a des obligations politiques de mettre tout sous l'étouffoir pour les JO et avant tout pour les européennes, il y a aussi cette personnalité-là de Macron qui, on dirait ça en football, qui à la limite bordélise toujours la surface de réparation. C'est-à-dire
ouais,
que.
Non,
mais si, ça,
mais
c'est
non,
mais dans
c'est
tous les domaines.
C'est la gestion du temps politique.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est dans
c'est
tous
votre
les
métier,
domaines.
Françoise, arrêtez.
Mais non, mais c'est pas, je ne suis pas d'accord avec
arrêtez.
Vous. Le problème, c'est qu'il a brisé son image. Moi, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. On ne peut pas avoir confiance dans un homme comme ça. Et vous pouvez pas passer votre vie à dire une chose et son contraire le matin sur le soir.
Jean-François, oui. Il veut réagir.
Très simple. Il a parlé là, de la loi Rungis 2. Bon. C'est une sorte de ça revient sur la loi Egalim. On a fait Egalim 1, on a fait Egalim 2, on a fait Egalim 3. Le problème est toujours le même.
Mmh. Voilà. C'est le revenu, le problème.
Mais vous avez tout
résumé. Bien sûr.
Le problème aujourd'hui, c'est que les grandes surfaces, elles ont leur centrale, et c'est eux qui continuent à gérer.
Oui, ça n'a rien changé.
Il vend une vache. Il dit, je vois la vache, il faut qu'il en passe 10 euros en carcasse.
Voilà.
Le Matignon, il arrive, il dit non, mon gars, c'est pas 10 euros, c'est 8. Parce que c'est moi qui vais la vendre 10 euros ou 12 euros.
Ben oui, voilà. Toujours les mêmes
histoires. C'est Ménard, le mot de la fin.
Et là, Egalim, ça fait quoi, Egalim? Oui. On m'explique, c'est Egalim, là. Egalim ne fait rien.
T'es pas d'accord là-dessus, Sébastien, mais
je suis et d'accord et pas d'accord, parce que l'agriculture française, depuis plus de 40 ans aujourd'hui, on vit sous des injonctions contradictoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on veut le meilleur de la France, le meilleur de l'Europe, on veut le meilleur de ce que peuvent nous apporter un certain nombre de grandes puissances étrangères dans certains domaines, sans nécessairement faire vivre ce sentiment de réciprocité. Mais c'est
Sébastien,
ça la conséquence.
Mais
la conséquence, c'est ça.
Sébastien, ce que explique notre agriculteur sur le revenu, Jean-François Lamassé, il explique la réalité, et tu la connais très bien, tu connais le gouvernement Sarkozy, ça a été fait pour lui. La réalité que les centrales d'achat et la grande distribution font encore la pluie et le beau temps, malgré Galim.
Et c'est ça, le mot de la fin. On a 20 secondes.
Je vais expliquer plus simple que ça.
20 secondes, Jean-François Lamassé.
Oui, 20 secondes. On nous avait promis, aux céréaliers, pas de suppression sans solution. Aujourd'hui, vous venez dans mon département, entre autres, là, dans toute la zone céréalière du Gers comme du Lauragais, vous voyez des grands ronds jaunes. Parce qu'on nous a interdit le gaucho. Alors, d'autres pays l'utilisent. D'accord ? Et nous, on ne peut pas l'utiliser.
Le gaucho, c'est un pesticide.
On nous parle de l'excellence française. Ouais. Vous voulez faire des produits d'excellence pour qui, pourquoi ? Personne ne veut les payer. Et nous, on se saigne.
Merci beaucoup, Jean-François Lamassé, administrateur.
C'est rare dans les grands céréaliers, des céréaliers qui parlent comme ça.
Absolument.
Mais il parle vrai, Jean-François.
Moins 33% sur l'aspirateur sans fil Silvercrest garantie 3 ans. Soit 19,99€ au lieu de 29,99€.
Moins de 20€ l'aspirateur 2 en 1. On nous vend du vent.
Ah non, patron. Plutôt un aspirateur à main et balai avec technologie cyclonique et filtre EPA.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir ? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances.
Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
TF1.
Lundi, La Recrue, votre nouvelle série. À tout juste 18 ans, Kevin est déjà un arnaqueur brillant. Lorsqu'il décide de raccrocher, c'est pour se voir proposer un job dans la police.
Je ne veux pas de ce gamin dans mon service.
Il a juste besoin d'un cadre.
Quatre murs et des barreaux, c'est très bien comme cadre.
La Recrue, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210€ par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 000€. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah bah, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc,